La conquête du pain, partie 17. Chapitre 4. Les maraîchers, disions-nous, sont contraints de se réduire à l'état de machine et de renoncer à toutes les joies de la vie pour obtenir leur récolte fabuleuse. Mais ces rudes piocheurs ont rendu à l'humanité un immense service en nous apprenant que l'on fait le sol. Ils le font, eux, avec les couches de fumier qui ont déjà servi à donner aux jeunes plantes et aux primeurs la chaleur nécessaire. Ils font le sol en si grande quantité que chaque année ils sont forcés de le revendre en partie. Sans cela, leur jardin s'exhausserait chaque année de 2 à 3 centimètres. Ils le font si bien que, c'est Barral dans le dictionnaire d'agriculture à l'article « Maraîcher » qui nous l'apprend, dans les contrats récents, le maraîcher stipule qu'il emportera son sol avec lui lorsqu'il abandonnera la parcelle qu'il cultive. Le sol emporté sur des chars avec les meubles et les châssis, voilà la réponse que les cultivateurs pratiques ont donnée aux élucubrations d'un Ricardo, qui représentait la rente comme un moyen d'égaliser les avantages naturels du sol. Le sol vaut ce que vaut l'homme. Telle est la devise des jardiniers. Et cependant, les maraîchers parisiens et rouennais se fatiguent 3 fois plus que leurs frères de Guernsey et d'Angleterre pour obtenir les mêmes résultats. Appliquant l'industrie à l'agriculture, en plus du sol, ceux-ci font le climat. En effet, toute la culture maraîchère est basée sur ces 2 principes. Semer sous châssis. Élever les jeunes plantes dans un sol riche, sur un espace limité, où l'on puisse les bien soigner et les repiquer plus tard, quand elles auront bien développé le chevelu de leurs racines. Faire, en un mot, ce que l'on fait pour les animaux, leur donner des soins dans leur jeune âge. Et pour mûrir les récoltes de bonheur, chauffer le sol et l'air, en couvrant les plantes de châssis ou de cloches et en produisant dans le sol une forte chaleur par la fermentation du fumier. Repiquage et température plus élevée que celle de l'air, voilà l'essence de la culture maraîchère, une fois que le sol a été fait artificiellement. Ainsi que nous l'avons vu, la première de ces 2 conditions est déjà mise en pratique et demande seulement quelques perfectionnements de détails. Et pour réaliser la seconde, il s'agit de chauffer l'air et la terre en remplaçant le fumier par l'eau chaude circulant dans des tuyaux de fonte, soit dans le sol sous des châssis, soit à l'intérieur des serres chaudes. C'est ce que l'on fait déjà. Le maraîcher parisien demande déjà au thermosiphon la chaleur qu'il demandait jadis au fumier. Et le jardinier anglais bâtit la serre chaude. Jadis, la serre chaude était le luxe du riche. On la réservait aux plantes exotiques ou d'agrément. Mais aujourd'hui, elle se vulgarise. Des hectares entiers sont couverts de verre dans les îles de Jersey et de Guernsey. Sans compter les milliers de petites serres chaudes que l'on voit à Guernsey dans chaque ferme, dans chaque jardin. Aux environs de Londres, on commence à couvrir de verre des champs entiers et des milliers de petites serres chaudes s'installent chaque année dans les faubourgs. On en fait de toutes les qualités, depuis la serre au mur de granit jusqu'au modeste abri clôturé en planches de sapin et à toiture de verre qui, malgré toutes les sangsues capitalistes, ne coûtent pas plus de 4 à 5 francs le mètre carré. On les chauffe ou on ne les chauffe pas du tout. L'abri seul suffit tant qu'on ne vise pas à produire des primeurs. Et on y fait pousser, non plus des raisins ni des fleurs tropicales, mais des pommes de terre, des carottes, des pois ou des flageolets. On s'émancipe ainsi du climat. On se dispense du travail laborieux des couches. On n'achète plus d'amas de fumier, dont les prix montent en proportion de la demande croissante, et l'on supprime en partie le travail humain. 7 ou 8 hommes suffisent pour cultiver l'hectare sous verre et pour obtenir les mêmes résultats que chez M. Ponce. À Jersey, 7 hommes, travaillant moins de 60 heures par semaine, obtiennent sur des espaces infinitésimaux des récoltes qui jadis demandaient des hectares de terrain. On pourrait donner des détails frappants à ce sujet. Bornons-nous à un seul exemple. À Jersey, 34 hommes de peine et un jardinier, cultivant un peu plus de 4 hectares sous verre, mettons 70 hommes qui ne donneraient à cela que 5 heures par jour, obtiennent d'année en année les récoltes suivantes. 25 000 kilos de raisins coupés dès le 1er mai, 80 000 kilos de tomates, 30 000 kilos de pommes de terre en avril, 6 000 kilos de pois et 2 000 kilos de flageolets coupés en mai, soit 143 000 kilos de fruits et de légumes, sans compter une deuxième récolte, très forte, de certaines serres, ni une immense serre d'agrément, ni les récoltes de toutes sortes de petites cultures en pleine terre, entre les serres chaudes. 143 tonnes de fruits et de primeurs. De quoi nourrir largement plus de 1500 personnes durant toute l'année. Et cela ne demande que 21 000 journées de travail, soit 210 heures par an pour la moitié seulement des 1000 adultes. Ajoutez-y l'extraction de 1000 tonnes environ de charbon, c'est ce que l'on brûle par an dans ces serres pour chauffer 4 hectares, et l'extraction moyenne étant en Angleterre de 3 tonnes par journée de 10 heures et par ouvrier, cela fait un travail supplémentaire de 6 à 7 heures par an pour chacun des 500 adultes. Somme toute, si la moitié seulement des adultes donnait une cinquantaine de demi-journées par an à la culture des fruits et des légumes hors saison, tous pourraient manger toute l'année des fruits et des légumes de luxe en satiété, quand bien même on ne les obtiendrait qu'en serre chaude. Et ils auraient, en même temps, comme deuxième récolte dans les mêmes serres, la plupart des légumes ordinaires qui, dans les établissements comme celui de M. Ponce, demandent, nous l'avons vu, 50 journées de travail. Nous venons de voir la culture de luxe, mais nous avons déjà dit que la tendance actuelle est de faire de la serre chaude un simple potager sous verre. Et quand on l'applique à cet usage, on obtient, avec des abris de verre extrêmement simples, chauffés légèrement pendant 3 mois, des récoltes fabuleuses de légumes. Par exemple, 450 hectolitres de pommes de terre à l'hectare comme première récolte à la fin d'avril. Après quoi, ayant amendé le sol, on fait pousser de nouvelles récoltes, de mai à fin octobre, dans une température presque tropicale due à l'abri de verre. Aujourd'hui, pour obtenir 450 hectolitres de pommes de terre, il faut labourer chaque année une surface de 20 hectares ou plus, planter et plus tard rechausser les plants, arracher les mauvaises herbes à la houe, et ainsi de suite. On sait ce que cela demande de peine. Avec l'abri de verre, on emploiera peut-être, pour commencer, une demi-journée de travail par mètre carré. Mais cette première besogne accomplie, on économisera la moitié, sinon les 3/4 du travail à venir. Voilà des faits. Voilà des résultats obtenus, vérifiés, bien connus, dont chacun peut se persuader en visitant les cultures. Et ces faits, ne sont-ils pas déjà suffisants pour donner une idée de ce que l'homme peut obtenir du sol s'il le traite avec intelligence? Chapitre 5. Dans tous nos raisonnements, nous avons tablé sur des précédents admis déjà et en partie mis en pratique. La culture intensive des champs, les plaines arrosées par les eaux d'égout, l'horticulture maraîchère, enfin le potager sous verre, sont des réalités. Ainsi que Léonce de Lavergne l'avait prévu il y a 30 ans, la tendance de l'agriculture moderne est de réduire autant que possible l'espace cultivé, de créer le sol et le climat, de concentrer le travail et de réunir toutes les conditions nécessaires à la vie des plantes. Cette tendance est née du désir de réaliser de fortes sommes d'argent sur la vente des primeurs. Mais depuis que les procédés de culture intensive sont trouvés, ils se généralisent et s'étendent aux légumes les plus communs, parce qu'ils permettent de se procurer plus de produits avec moins de travail et plus de sécurité. En effet, après avoir étudié les abris de verre les plus simples de Guernesey, nous affirmons que, tout compte fait, on dépense beaucoup moins de travail pour obtenir sous verre, en avril, des pommes de terre, qu'on en dépense pour avoir sa récolte 3 mois plus tard en plein air, en bêchant un espace 5 fois plus grand, en l'arrosant et en extirpant les mauvaises herbes, etc. C'est comme pour l'outil ou la machine. On économise sur le travail en employant un outil ou une machine perfectionnée, alors même qu'il faut une dépense préalable pour acheter l'outil. Des chiffres complets concernant la culture des légumes communs sous verre nous manquent encore. Cette culture est d'origine récente et ne se fait que sur de petits espaces. Mais nous avons des chiffres concernant la culture, déjà vieille d'une 30aine d'années, d'un objet de luxe, le raisin. Et ces chiffres sont concluants. Dans le nord de l'Angleterre, sur la frontière d'Écosse, où le charbon ne coûte que 4 francs la tonne à la bouche du puits, on se livre depuis longtemps à la culture du raisin en serre chaude. Il y a 30 ans, ces raisins, mûrs en janvier, se vendaient par le cultivateur à raison de 25 francs la livre et on les revendait 50 francs pour la table de Napoléon III. Aujourd'hui, le même producteur ne les vend plus que 3 francs la livre. Il nous l'apprend lui-même dans un article récent d'un journal d'horticulture. C'est que des concurrents envoient des tonnes et des tonnes de raisins à Londres et à Paris. Grâce au bon marché du charbon et à une culture intelligente, le raisin, en hiver, croît au nord et fait son voyage en sens contraire des produits ordinaires vers le midi. En mai, les raisins anglais et ceux de Jersey sont vendus 2 francs la livre par les jardiniers et encore ce prix, comme celui de 50 francs d'il y a 30 ans, ne se maintient que par la faiblesse de la concurrence. En octobre, les raisins cultivés en immense quantité aux environs de Londres, toujours sous verre, mais avec un peu de chauffage artificiel, se vendent au même prix que les raisins achetés à la livre dans les vignes de la Suisse ou du Rhin, c'est-à-dire pour quelques sous. C'est encore trop cher, des 2/3, par suite de la rente excessive du sol, des frais d'installation et de chauffage, sur lesquels le jardinier paie un tribut formidable à l'industriel et à l'intermédiaire. Ceci expliqué, on peut dire qu'il ne coûte presque rien d'avoir en automne des raisins délicieux sous la latitude et le climat brumeux de Londres. Dans un de ses faubourgs, par exemple, un méchant abri de verre et de plâtre, appuyé contre notre maisonnette et long de 3 mètres sur 2 de large, nous donne, en octobre, chaque année, depuis 3 ans, près de 50 livres de raisins d'un goût exquis. La récolte provient d'un cep de vigne âgé de 6 ans. Et l'abri est si mauvais qu'il pleut à travers. La nuit, la température y est toujours celle du dehors. Il est évident qu'on ne le chauffe pas. Autant vaudrait chauffer la rue. et les soins à donner sont la taille de la vigne, pendant une demi-heure par an, et l'apport d'une brouette de fumier que l'on renverse au pied du cep, plantée dans l'argile rouge en dehors de l'abri. Si l'on évalue d'autre part les soins excessifs donnés à la vigne sur les bords du Rhin ou du Léman, les terrasses construites pierre à pierre sur les pentes des coteaux, le transport du fumier et souvent de la terre, à une hauteur de 200 ou 300 pieds, on arrive à la conclusion qu'en somme, la dépense de travail nécessaire pour cultiver la vigne est plus considérable en Suisse ou sur les bords du Rhin qu'elle ne l'est sous verre dans les faubourgs de Londres. Cela peut paraître paradoxal au premier abord, parce que l'on pense généralement que la vigne pousse d'elle-même dans le midi de l'Europe et que le travail du vigneron ne coûte rien. Mais les jardiniers et les horticulteurs, loin de nous démentir, confirment nos assertions. La culture la plus avantageuse en Angleterre est la culture de la vigne, dit un jardinier pratique, le rédacteur du journal d'horticulture anglais. Les prix, d'ailleurs, ont, on le sait, leur éloquence. Traduisant ces faits en langage communiste, nous pouvons affirmer que l'homme ou la femme qui prendront sur leur loisir une 20aine d'heures par an pour donner quelques soins, très agréables au fond, à 2 ou 3 ceps de vigne plantés sous verre, sous n'importe quel climat de l'Europe, récolteront autant de raisins qu'on en peut manger dans sa famille et entre amis. Et cela s'applique non seulement aux produits de la vigne, mais à ceux de tous les arbres fruitiers acclimatés. 100 jardiniers compétents pourraient donner à ce travail 5 heures par jour, et le reste serait fait tout simplement par des gens qui, sans être jardiniers de profession, sauraient manier la bêche, le râteau, la pompe d'arrosage ou surveiller un fourneau. Mais ce travail donnerait au bas mot, nous l'avons vu dans un chapitre précédent, tout le nécessaire et le luxe possible en fait de fruits et de légumes pour 75 000 ou 100 000 personnes au moins. Admettez qu'il y ait dans ce nombre 36 000 adultes désireux de travailler au potager. Chacun aurait donc à consacrer 100 heures par an réparties sur toute l'année. Ces heures de travail deviendraient des heures de récréation, passées entre amis, avec les enfants, dans des jardins superbes, plus beaux probablement que ceux de la légendaire Sémiramis. Voilà le bilan de la peine à prendre pour pouvoir manger à satiété des fruits dont nous nous privons aujourd'hui, et pour avoir en abondance tous les légumes que la mère de famille rationne si scrupuleusement lorsqu'il lui faut compter les sous dont elle enrichira le rentier et le vampire propriétaire. Ah, si l'humanité avait seulement la conscience de ce qu'elle peut, et si cette conscience lui donnait seulement la force de vouloir. Si elle savait que la couardise de l'esprit est l'écueil sur lequel toutes leurs révolutions ont échoué jusqu'à ce jour.
Chapitre 6. On entrevoit aisément les horizons nouveaux ouverts à la prochaine révolution sociale. Chaque fois que nous parlons de la révolution, le travailleur sérieux qui a vu des enfants manquant de nourriture fronce les sourcils et nous répète obstinément « Et le pain ? N'en manquera-t-on pas si tout le monde mange à son appétit ? Et si la campagne, ignorante, travaillée par la réaction, affame la ville comme l'ont fait les bandes noires en 1793, que fera-t-on ? Que la campagne essaie seulement. Les grandes villes se passeront alors de la campagne. À quoi s'emploieront, en effet, ces centaines de milles de travailleurs qui s'asphyxient aujourd'hui dans les petits ateliers et les manufactures, le jour où ils reprendront leur liberté? Continueront-ils, après la révolution comme avant, à s'enfermer dans les usines?
Continueront-ils à faire de la bimbloterie de luxe pour l'exportation, alors qu'ils verront peut-être le blé s'épuiser, la viande devenir rare, les légumes disparaître sans être remplacés? Évidemment non. Ils sortiront de la cité, ils iront dans les champs. Aidés de la machine, qui permettra aux plus faibles d'entre nous de donner leur coup d'épaule, ils porteront la révolution dans la culture d'un passé esclave, comme ils l'auront porté dans les institutions et dans les idées. Ici, des centaines d'hectares se couvriront de vert, et l'homme et la femme, aux doigts délicats, soigneront les jeunes plantes. Là, d'autres centaines d'hectares seront labourés aux défonceurs à vapeur, amendés par des engrais ou enrichis d'un sol artificiel obtenu par la pulvérisation de la roche. Les légions joyeuses de laboureurs d'occasion couvriront ces hectares de moissons, guidés dans leur travail et leurs expériences, en partie par ceux qui connaissent l'agriculture, mais surtout par l'esprit grand et pratique d'un peuple réveillé d'un long sommeil et qu'éclaire et dirige ce phare lumineux, le bonheur de tous. Et, en 2 ou 3 mois, les récoltes hâtives viendront soulager les besoins les plus pressants et pourvoir à la nourriture d'un peuple qui, après tant de siècles d'attente, pourra enfin assouvir sa faim et manger à son appétit. Entre-temps, le génie populaire, le génie d'un peuple qui se révolte et connaît ses besoins, travaillera à expérimenter les nouveaux moyens de culture que l'on pressent déjà à l'horizon et qui ne demandent que le baptême de l'expérience pour se généraliser. On expérimentera la lumière, cet agent méconnu de la culture qui fait mûrir l'orge en 45 jours sous la latitude de Yakoutsk. Concentrée ou artificielle, la lumière rivalisera avec la chaleur pour hâter la croissance des plantes. Un mouchot de l'avenir inventera la machine qui doit guider les rayons du soleil et les faire travailler, sans qu'il soit besoin d'aller chercher dans les profondeurs de la terre la chaleur solaire emmagasinée dans la houille. On expérimentera l'arrosage du sol avec des cultures de micro-organismes, idée si rationnelle née d'hier, qui permettra de donner au sol les plus petites cellules vivantes si nécessaires aux plantes, soit pour alimenter les radicelles, soit pour décomposer et rendre assimilables les parties constitutives du sol. On expérimentera. Mais non, n'allons pas plus loin. Nous entrerions dans le domaine du roman. Restons dans la réalité des faits acquis. Avec les procédés de culture en usage déjà, appliqués en grand, sortis des aujourd'hui victorieux de la lutte contre la concurrence marchande, nous pouvons nous donner l'aisance et le luxe en retour d'un travail agréable. L'avenir prochain montrera ce qu'il y a de pratique dans les futures conquêtes que font entrevoir les récentes découvertes scientifiques. Bornons-nous présentement à inaugurer la voie nouvelle consistant dans l'étude des besoins et des moyens d'y satisfaire. La seule chose qui puisse manquer à la révolution, c'est la hardiesse de l'initiative. Abrutis par nos institutions à l'école, asservis au passé dans l'âge mûr et jusqu'au tombeau, nous n'osons presque pas penser. Est-il question d'une idée nouvelle? Avant de nous faire une opinion, nous irons consulter des bouquins vieux de 100 ans pour savoir ce que les anciens maîtres pensaient à ce sujet. Si la hardiesse de la pensée et l'initiative ne manquent pas à la révolution, ce ne seront pas les vivres qui lui feront défaut. De toutes les grandes journées de la grande révolution, la plus belle, la plus grande, qui restera gravée à jamais dans les esprits, fut celle où les fédérés, accourus de toutes parts, travaillèrent la terre du champ de Mars pour préparer la fête. Ce jour-là, la France fut une. Animée de l'esprit nouveau, elle entrevit l'avenir qui s'ouvrait devant elle dans le travail en commun de la terre. Et ce sera encore par le travail en commun de la terre que les sociétés affranchies retrouveront leur unité et effaceront les haines, les oppressions qui les avaient divisées. Pouvant désormais concevoir la solidarité, cette puissance immense qui centuple l'énergie et les forces créatrices de l'homme, la société nouvelle marchera à la conquête de l'avenir avec toute la vigueur de la jeunesse. Cessant de produire pour des acheteurs inconnus et cherchant dans son sein même des besoins et des goûts à satisfaire, la société assurera largement la vie et l'aisance à chacun de ses membres, en même temps que la satisfaction morale que donne le travail librement choisi et librement accompli, et la joie de pouvoir vivre sans empiéter sur la vie des autres. Inspiré d'une nouvelle audace, nourri par le sentiment de solidarité, tous marcheront ensemble à la conquête des hautes jouissances du savoir et de la création artistique. Une société ainsi inspirée n'aura à craindre ni les dissensions à l'intérieur, ni les ennemis du dehors. Aux coalitions du passé, elle opposera son amour pour l'ordre nouveau, l'initiative audacieuse de chacun et de tous, sa force devenue herculéenne par le réveil de son génie. Devant cette force irrésistible, les rois conjurés ne pourront rien. Ils n'auront qu'à s'incliner devant elle, s'atteler au char de l'humanité, roulant vers les horizons nouveaux, entrouverts par la révolution sociale.